Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, émission un peu spéciale. Cette semaine, je vous propose de réécouter nos visites de bibliothèque de ces quatre dernières années. Quatre au programme aujourd'hui, le chef Thierry Marx, Vincent Delerme, Valérie Damidot, fan de Polar, et François Morel. Nous écouterons aussi deux grands romans par la voix du comédien Philippe Dussault. Et on commence nos visites de bibliothèque avec celle du chef Thierry Marx. Donc, c'était la toute première visite de La Voix est libre.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Merci de nous recevoir
plaisir.
Chez vous. Là, on est dans votre bureau. Ouais. Je dois dire aux auditeurs que c'est assez hallucinant. Un peu intimidant même, parce qu'on a une armure de samouraï. Ouais. C'est quoi, en fait?
Oui, c'est l'armure d'un officier à l'époque des samouraïs. C'est l'époque Edo. Avec son wakizashi et puis
wakizashi, c'est le
sabre. Petit sabre court, et il y avait le sabre long, son arc.
Vous êtes collectionneur d'armes, en fait, parce qu'on a des vieux colts.
Oui, parce qu'ils ont une histoire. C'est-à-dire que ça, c'est le colt Remington à Barillet qui était parti sur la poudre noire, donc ce qu'on a connu à la guerre de sécession. Et finalement, la guerre de sécession s'est gagnée par l'innovation où Samuel Colt a converti les colts pour y mettre des balles. Ce qui évitait d'avoir à remettre de la poudre noire. Et finalement, le Nord a gagné face au Sud.
Bon, il y a surtout des livres, on est là pour ça quand même.
Oui, oui, oui.
Et des livres de la même époque d'ailleurs.
Oui,
il y a des livres un peu 19e. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de bibliothèque en tant que telle, vraiment. Quoi. C'est un peu partout. Là, c'est dans votre secrétaire, donc des vieux livres. Vous pouvez nous les présenter un peu, ils sont super.
Alors, vous avez ici le 18e avec tous les grands écrits sur la médecine lié à la cuisine, donc on va partir sur le traité de l'école de Salerne, mais aussi tout le travail qu'avait fait Carême avec Talleyrand. Ce meuble-là, ce sont des livres authentifiés, vérifiés. On est vraiment dans la lecture de l'époque, y compris un ouvrage qui date de Louis XIV, qui était le confiturier du roi. Ça, c'est le traité original 14e siècle de l'école de Salerne. C'est un très joli livre. C'est un livre de cuisine au service de la beauté des femmes.
Il est en très très bon état. Hein.
Oui, oui. Là, vous avez le cuisinier François, le jardinier François, qui était le livre de cuisine du roi, dans lequel on trouve le fameux lièvre à la royale, parce que le roi était édenté.
Mais j'imagine que vous ne posez pas ces livres-là sur votre plan de travail quand vous cuisinez, quand même.
Ça peut arriver quand on a un cerveau collectif à l'Université d'Orsay et on étudie la science de nos aînés, pour voir comment on peut la transposer aujourd'hui, voire envisager une gastronomie pour 2050. Et je les sors bien volontiers pour les montrer aux jeunes générations, comme elles m'ont inspiré. J'estime qu'il faut les partager.
Mais c'est pour ça que vous les gardez? Vous avez peur que ça se perde, toutes ces recettes?
C'est pas une peur, ça montre bien qu'il n'y a pas de conflit entre la tradition, qui est ne serait-ce que de la transmission, et l'innovation. Et à chaque fois, en France, on se ralentit, parce qu'on met du conflit entre la tradition et l'innovation, et on oublie que la tradition, c'est la transmission.
On veut soit l'un, soit l'autre.
Exactement.
Alors là, juste à gauche, il y a une belle cheminée avec des livres dessus, mais juste devant, il y a un képi de légionnaire.
Ouais.
Vous étiez légionnaire?
Quand j'étais jeune, j'étais au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, et puis j'ai été admis légionnaire de première classe quelques années plus tard.
Et alors sur la cheminée, je vois d'ici, sur la tranche, j'ose pas les manipuler.
Alors on peut, ils sont là pour ça. Alors il y a le livre de pâtisserie, l'édition originale de Jules Gouffet. Il y a tous les livres du 19e et 20e, bien sûr, c'est ce qui a été les premières publications de cuisine, qui est le pot-au-feu, on appelait ça.
Vous avez trois ouvrages intitulés Le pot-au-feu.
Oui, c'est une collection complète. Ici, vous avez un livre très intéressant. C'est le cuisinier qui a suivi l'empereur pendant toutes ses campagnes, durant
Napoléon.
Et on retrouve les recettes du veau maringot, qui n'était pas du tout un veau maringot, mais un poulet maringot. Et là, vous avez l'ouvrage d'époque, le cuisinier Durand. Il essayait de voir, en fonction de ce que lui ramenaient les troupes, ce qu'il pouvait cuisiner.
Et on m'a dit que vous vous intéressiez aussi au menu des soldats, notamment pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement, le ravitaillement était assez intéressant dans les lignes arrières pour que les soldats qui allaient au front puissent y aller avec un petit peu plus de cœur au ventre. Donc j'ai racheté tous les manuels militaires.
Les manuels. Ah, ouais.
Alors, l'alimentation en campagne. Voilà, ça, c'est ce qui a été édité pour la guerre de 14, pour les troupes. Comment on fait le pain, comment on abat la viande, comment on la stocke, comment on cuisine aux arrières pour que les premières lignes puissent avoir un approvisionnement quand ils revenaient en repos de qualité.
On va changer de pièce. J'ai vu là-bas un mur qui m'intéresse bien dans une autre pièce.
Ah oui, bien sûr, avec plaisir.
Un mur noir.
Ah oui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture du polar, par exemple, et notamment à la lecture du polar, parce que j'aimais les dialogues d'Audiard. Et parce que je lisais ça partout, c'était pas cher, on me les envoyait quand j'étais en permission et que je repartais après avec l'armée.
Alors précisément, là, on est justement devant un mur de la collection Série Noire chez Gallimard. C'est vraiment les éditions originales.
Alors, c'est l'édition originale, et ce qui est intéressant, c'est pas comment on achetait une Série Noire, c'est pourquoi on l'achetait. Vous étiez interpellé par le titre, deux, trois mots sur le bouquin, on l'achetait, c'était lu. En général, il était lu dans la journée ou dans les deux jours. L'assassin revient toujours. Mmh. Bon, voilà, c'était des
titres. Masques.
Bas les masques, bien sûr.
Eastwood. Et là, pas de vieux os. C'est vraiment les titres à
l'ancienne. Moi, je suis tombé là-dessus parce que les titres me bluffaient. Je me disais, ça va forcément m'intéresser. Poids lourd, par exemple, de Curtis. Voilà, je me disais, ça va être un truc sur la boxe. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et ensuite, des années après, quand j'ai commencé à reprendre des études, j'étais un peu honteux de ne pas avoir lu Balzac, Maupassant, Céline. Je les ai lus, bien entendu. J'y croyais pas. C'est-à-dire qu'il y avait que le polar qui m'intéressait, il y avait que cette capacité à aller vers du livre facile, ce qui semblait être le livre de l'ouvrier. Et à un moment donné, quand j'ai lu, par exemple, Stendhal ou Céline, je me suis dit, mais c'est génial aussi. C'est génial aussi. Et j'ai commencé par La Petite Marche. Alors évidemment, après, avec les années...
Encore que ça se discute, il y a des grands auteurs de polar, c'est sûr.
Oui, mais moi, pour moi, Jean-Patrick Manchette, c'est un grand auteur, pas que de polar. C'est un romancier formidable.
Mais vous les relisez, ceux-là, parce qu'ils sont quand même...
Ils sont
superbes, mais ils ont vieilli, quoi. Ils sont fragiles, peut-être.
Bien sûr, j'évite de les manipuler. Mais ce que je fais, c'est que je marque un dialogue, je marque une phrase, je marque une situation.
Vous n'écrivez jamais sur un livre ?
Si. Je trouve que ces phrases qui sortent des polars sont absolument hallucinantes, de vérité.
C'est vraiment Série Noire.
Ouais. C'est vraiment Série Noire.
Est-ce qu'on peut retourner dans le couloir ? J'ai vu des placards et j'ai envie de les ouvrir, voir s'il n'y aurait pas quelques livres qui s'y cachent encore.
Il reste des trucs, mais là on est
encore
plus
la
sur
la... cuisine, sa technique, ses secrets.
Et puis après, toute la lecture des Jack London, des Musashi.
Il y a des VHS aussi de L'Art de Vaincre. Judo, Aikido.
C'est parce que je suis dedans. Alors, c'est pour ça que je l'ai gardé.
Oui, parce que vous faites beaucoup d'arts martiaux. Vous avez des livres d'arts martiaux ? Le judo.
Il y a La Vie de Kano qui a été formidable.
Kano, le fondateur du judo.
Ça,
c'est là, ils sont par terre, ces livres-là, sur le parquet.
C'est ceux qui sont en cours de lecture ou qui ont déjà été lus ou dans lesquels j'ai mis des annotations. D'accord. Mais les deux derniers qui viennent d'être lus, c'est Robert Nicou, Scène de boxe, où il raconte un petit peu le côté pile et le côté face de la boxe, et notamment des extractions sociales qui se sont glorifiées dans la boxe, et très peu ont fini finalement comme ils le mériteraient, riches.
Sur Chalandon, donc le jour d'avant que vous avez dans les mains, il vous touche, Chalandon ?
Beaucoup, parce qu'il a une écriture du monde ouvrier, du monde de Liévin, et des terrils, des gueules noires, de ces cités ouvrières que moi j'ai un petit peu connues. Ça touche toujours beaucoup parce qu'on a l'impression que quand on vient d'une extraction sociale modeste, on n'est pas forcément traité de la même façon que d'autres rangs dans cette société.
Merci Thierry Marx.
Merci à vous.
Merci beaucoup. On se quitte dans ce bureau magnifique sous le regard de cet officier japonais du 18e siècle et de son armure. Merci beaucoup Thierry Marx.
Merci, plaisir.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
Retour à Europe 1 et merci à ce grand lecteur de Thierry Marx. Dans un instant, nous partons chez Vincent Delerme, mais avant ça, je vous propose d'écouter un livre. J'ai choisi Le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Le guide du voyageur galactique, au départ, c'est un feuilleton radio diffusé en 1978. À partir de 79, c'est devenu un roman du même auteur, Douglas Adams. C'est de l'humour britannique pur à la Monty Python. Il y a 5 tomes. Écoutez les titres. Le tome 1, c'est donc Le guide du voyageur galactique. Le tome 2, Dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, La vie, l'univers et le reste. Le tome 4, Salut et encore merci pour le poisson. Et le cinquième et dernier, globalement inoffensive. C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune Anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne, dans une petite maison. Quand on le rencontre au début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison. Mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence. Il lui dit de lever le pouce en l'air. Et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps. La Terre est détruite quelques minutes plus tard. Et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas terrien, en fait, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers, et on suit les deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté et très très drôle. Écoutez la première page lue par le comédien Philippe Dussault.
La maison se tenait isolée sur une légère éminence juste à la sortie du village et donnée sur les larges étendues de la campagne vers l'ouest. Une maison sans rien de remarquable, datant d'une trentaine d'années, trapue, carrée, bâtie en briques, avec en façade quatre ouvertures dont la taille et les proportions parvenaient à peu près totalement à ne pas satisfaire l'œil. La seule personne pour qui cette maison représentait quelque chose de particulier s'appelait Arthur Dent, et cela uniquement parce qu'il se trouvait y vivre. Il y vivait depuis 3 ans, exactement depuis qu'il avait quitté Londres, parce que la vie citadine le rendait irritable et nerveux. Proche de la trentaine, il était grand, brun, et pas tout à fait bien dans sa peau. Ce qui l'ennuyait le plus était que les gens n'arrêtaient pas de lui demander ce qui avait l'air de l'ennuyer tant. Il travaillait à la radio locale, dont il ne cessait d'affirmer à ses amis qu'elle était bien plus intéressante qu'il ne le croyait sans doute. Il faut dire que la plupart de ses amis travaillaient dans la publicité. Le mercredi soir, il avait beaucoup plu. La route était humide et boueuse, mais au matin du jeudi, un soleil éclatant brillait au-dessus de la maison d'Arthur Dent pour ce qui devait s'avérer la dernière fois. Arthur n'avait pas encore parfaitement pris conscience que le conseil municipal avait l'intention de l'abattre pour y faire passer une déviation. Ce jeudi, à 8h du matin, Arthur ne se sentait pas très bien. Il s'éveilla, hagard, se leva, fit, toujours hagard, le tour de sa chambre, ouvrit une fenêtre, vit un bulldozer, dénicha ses pantoufles et se dirigea pesamment vers la salle de bain pour aller se laver.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, spéciale visite de bibliothèque cette semaine et on continue chez Vincent Delerme dans son salon, mais dans sa cuisine aussi.
Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour.
Bon, on est chez vous, là, ça ressemble à une de vos chansons en fait. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a des cassettes, il y a un pick-up, il y a un piano évidemment. Là, on est dans votre salon, il y a une table basse blanche en bois, un peu passée ou faussement vieillie.
Non, c'est une vraie vieillie. C'est un vrai vieilli.
D'accord, un grand canapé.
Les gens vont croire que c'est très vieux chez moi. Faites attention ouverte. À ce que
non,
vous
non,
dites
non,
quand
non.
même.
Parce que, alors bon, il faut dire, il y a quelques bibliothèques, mais les livres sont un peu partout. C'est pas tout rangé.
C'est vrai.
Et vous avez des cassettes, donc je disais, des cassettes audio.
Ouais.
Là, il y a les Beatles, il y a David Bowie. Mais vous avez le lecteur cassette qui va avec ou pas?
J'ai des lecteurs cassettes, ouais. En fait, c'est des trucs dont les lecteurs cassettes, tous ces appareils-là, même le truc pour les disques, c'est des trucs dont je me suis servi dans des spectacles, souvent. En fait, j'ai gardé beaucoup de choses.
Bon, alors, il y a quand même quelques livres, on est là pour ça. Alors là, c'est quoi, en fait? C'est pas de la littérature, ça, c'est plutôt des beaux livres.
Bah là, il y a beaucoup de photos, donc Malik Sidibé, Sedou Keïta, ça, c'est... C'est quand même beaucoup... Les livres de photos, c'est un truc qui prend beaucoup de place chez moi, parce que j'adore la photo. Il y a quelque chose de précis, un témoignage qui est très fidèle du moment et de l'intensité du moment. La photo qui est la plus grande chez moi, c'est une photo de Romy Schneider.
Romy Schneider, nue.
Ouais, on la voit. Bah oui. Je crois qu'elle est nue entièrement, mais on voit que le haut.
Dans le salon, avec vos
j'ai
enfants
la partie basse,
et tout, quoi, je veux
dire. Dans le grenier. Non, dans le salon, oui, mais justement, c'est pas du tout... je crois pas que ce soit très choquant. Et surtout, on sent vraiment l'instant.
C'est surtout
quoi.
Qu'elle fume, quoi.
C'est un soir... Ah oui. Il y a ce... C'est pour moi typiquement photo, c'est-à-dire que... On se met à la place de la personne qui a pris la photo. Il y a dans un coin, vers le haut, le briquet et son paquet de cigarettes. Et puis, on sent la soirée qui est en train de se faire avec elle. Mmh. Et ça, c'est la vraie force des photos, c'est qu'on peut se mettre assez facilement à la place des gens qu'on photographiait et sentir les instants, ce qui est un truc que j'essaye beaucoup de faire en général, en chanson, dans mes spectacles et tout ça.
Vous arrivez à vous emparer de ces livres parfois et de vous poser un peu pour les regarder ou
oui, pas oui. Assez? Souvent le matin, quand je suis réveillé avant les autres, j'ai une petite tendance au réveil à 5h30 du matin. Donc c'est un bon moment parce qu'on est disponible. D'une manière générale, le matin, on est un peu comme nettoyé, comme il y a quelque chose qui est... On peut tout prendre un peu de front, on n'est pas perturbé par le fait d'avoir appris tel truc, qu'il faut faire telle chose et tout ça. Et c'est un moment où on est comme disponible, je trouve. Et voilà, c'est des moments où j'aime bien regarder ces bouquins.
Dans vos chansons, vous parlez beaucoup justement de photos. On voit des photos quand vous chantez. Est-ce que vous piochez aussi dans ces livres-là et vous le posez sur le pupitre à côté de la partition pour vous inspirer de la photo? Comment ça se passe?
Non, pas vraiment. À part sur la chanson justement qui s'appelle Martine Parr, que j'avais faite à un moment où j'étais bloqué, où je ne savais vraiment pas quoi dire, quoi écrire. C'était, j'avais fait 3 disques et puis je ne sais pas, j'avais un blocage. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais repartir vraiment d'un photographe et là, faire une chanson qui a rien. Enfin, j'invente rien dans la chanson. Je ne fais que décrire très précisément des photos. Tout le texte de la chanson, c'est que ça.
Puisqu'on en parle, sur le piano, y a, c'est quoi? C'est des vinyles ou c'est des partitions, ça?
Non, ça, c'est des vinyles, mais qui sont très neutres. Vous voyez, c'est juste avec juste de la typo, des aplats de couleurs.
Il a quelque chose de spécial, ce piano, ou pas?
C'est le piano droit le plus lourd du monde. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas une blague. Et c'est un gros Trian Steinweg. C'est la marque Steinway, mais avant qu'ils émigrent aux États-Unis, c'est l'ancêtre du Steinway. D'accord. Le vrai. Ce qui permet qu'il ait une pédale d'appartement, ce que n'ont pas les Steinway, qui permet de ne pas embêter les voisins. Sur les Steinway, maintenant, ils ne veulent pas mettre de pédale comme ça. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé cette partition. Vous l'aviez dit que c'était vous qui jouiez?
Je peux le dire, j'ai joué sur le piano de Vincent Delerme.
Ça doit faire quelque chose.
C'est assez classe. C'est le seul truc que je sais jouer.
Et c'est brillant.
Où sont les autres livres? Parce que là, il n'y a plus rien.
Là, il n'y a plus rien. Bah, attendez, on peut pas... Si, il y a des recettes, regardez.
Ah, il y a des livres de cuisine. On est dans la cuisine parce que c'est une cuisine ouverte.
99 omelettes originales.
99 omelettes originales.
Je savais que ça vous plairait, j'ai senti un peu.
Et ça date de quand, ça? Année 80?
76, dites donc, mon année de naissance.
Qu'est-ce qu'il y a comme type d'omelette?
Regardez. Omelette aux carottes, omelette aux pointes d'asperges.
Omelette aux nouilles.
Omelette aux nouilles. Alors donc, faites chauffer la sauce tomate, faites l'omelette à l'accoutumée, posez-la sur le gâteau de pâte et nappez avec la sauce tomate. Et il faut avoir fait un gâteau de pâte, préalablement. Qu'est-ce qu'une omelette? La question peut paraître inutile et pourtant, il y a de l'omelette bon nombre de définitions et nous avons tous entendu une fois au moins une querelle, à côté de laquelle celle des anciens et des modernes n'était rien, qui est celle de l'omelette baveuse, de l'omelette dorée.
Voilà. Vous en servez de ce livre?
Je ne sais pas s'il faut faire trop long là-dessus. Hein.
Non,
quand même,
non,
évidemment.
Pas la peine.
Je m'en sers, non.
Parce que depuis la cuisine, on voit votre chambre et je vois qu'il y a d'autres livres. Vous avez du Richard Brautigan, qui est un de mes auteurs préférés. Vous aimez Richard Brautigan?
Ben oui.
C'est un recueil de poèmes. Le baiser fantôme, par exemple, je le lis. Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu.
C'est chouette, ça.
C'est chouette, ouais.
En fait, avec la poésie aussi, bon, Brautigan, c'est assez limpide. En général, on arrive à entrer dedans, mais j'aime bien la poésie en général. Même le côté, on comprend une phrase sur 8. Enfin, il en ressort quelque chose.
Je prendrai ta main qui me rappelle un chat que j'ai bien connu et nous irons marcher.
Bon, ben voilà. Du coup, c'est typiquement le genre de vers dont on fait un peu ce qu'on veut. Et on peut quand même pas mal mettre de soi là-dedans, alors que quand on lit un livre, bah, on est tenu quand même de suivre l'intrigue, on vous fait un peu marcher au pas de quelque chose. Avec la poésie, il y a un truc très ouvert et qui fait que chaque personne qui va lire ça, enfin, les gens qui vont entendre ça vont se dire « Tiens, est-ce que j'ai connu une fille qui avait une main qui ressemblait à un chat que j'ai connu ?» enfin...
Tiens, c'est oui, qui c'est... ça? Philippe Delerme.
Ah ben, il y a tout un rayon sur Philippe Delerme.
Donc c'est votre papa?
Plutôt dans cette zone-là, ouais.
Ils sont tous dédicacés?
Beaucoup. Mais non, ouais, c'est... Moi, j'ai toujours aimé l'écriture de mon père. Je me souviens de l'âge où finalement j'ai commencé à lire, qui était... où j'étais déjà adolescent, et j'ai lu quand j'avais 17-18 ans, j'ai lu des bouquins qu'il avait écrits 10 ans avant. Et ça m'a fait de l'effet, évidemment, parce que c'était des choses... C'est quelqu'un qui est aussi qui s'inscrit beaucoup dans une vraie vie, dans une absence d'imagination. Je dis ça de manière très positive, parce que j'ai la même chose. Souvent, je me suis recollé à des trucs que j'avais plus ou moins vécu, ou à des mélancolies que j'avais pu ressentir, ou à des moments très forts de la vie de mes parents.
Il y a la première gorgée de bière, bien sûr. Vous vous souvenez du succès de la première gorgée de bière?
C'était très marquant. Moi, je suis devenu une star à la fac de Rouen. J'étais le fils du mec qui a fait la première gorgée de bière. C'était ma grande expérience du végétarien, en fait. Parce que après, bizarrement, ça m'a fait moins d'effet de faire mon premier disque et que ça fonctionne un peu. Parce que ça, c'était fou, quoi.
Je vois Journal d'un homme heureux aussi, là. journal d'un homme heureux que j'avais lu. Il est sorti il y a un an à peu près.
Oui.
Et c'est son journal des années 80. Et vous êtes beaucoup dedans.
D'une année, en fait, précise, ouais.
Il parle de vous, enfant, et de votre sensibilité. Je ne lis pas la dédicace, hein, c'est personnel.
Merci.
Ça vous ennuie, ça, qu'on parle de vous, enfant, qu'on livre des choses? Parce que bon, vous étiez un enfant très sensible, d'après ce que j'ai compris en lisant le livre.
Je lui ai dit, quand il a fait le bouquin, je lui ai dit, putain, mais je pleure tout le temps dans ton livre. Mais en fait, ouais, en plus, lui, ça lui plaisait sûrement, parce que c'est lié à des moments, des formes d'intensité, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait. En plus, moi, j'ai toujours... il y a pas mal de fois où c'est des émotions, très, au contraire, très positives, mais qui font monter les larmes aux yeux. Après, c'est non, je me suis même pas posé la question, en fait, de savoir si c'était gênant ou s'il avait le droit ou pas. C'est son travail d'écrivain et moi, j'ai fait partie de ça et ça a été une chance immense pour moi parce que, bizarrement, là, on parle de bibliothèque, justement, les livres en général ont toujours été très présents autour de moi, même si je suis assez peu lecteur. Je mets longtemps à finir un livre, je lis pas 12 000 livres par semaine. Mais j'ai besoin physiquement qu'il y ait des livres autour de moi. Et puis j'ai sûrement une affection pour ça, pour la mise en page. Ça a toujours été un peu là et comme un truc un peu mythique aussi. Et ça, c'est lié à cette vie-là, à cette enfance que j'ai eue avec eux. Et voilà. Et en plus, il se trouve que j'ai aimé beaucoup d'autres choses que ceux qui m'ont proposé, que les choses qu'ils m'ont proposé. Mais par contre, les trucs qu'ils m'ont proposé, ça n'a jamais été un souci pour moi. C'est des choses que j'aimais aussi. Juste, moi, j'aimais des trucs en plus, mais je ne me suis pas dit « Oh là là, je déteste, il faut absolument que je m'en aille de cette baraque. » Donc finalement, c'est assez rare. Je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais après coup, tout le monde m'a dit « Ah, c'est bizarre quand même, ne pas avoir fait de crise d'adolescence, il faudrait peut-être voir un psy. » Mais c'était comme ça, et tant mieux.
Merci beaucoup, Vincent Dolerme.
Bah, merci à toi.
Merci pour la visite.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre, le retour, spécial visite de bibliothèque. Cette semaine, nous partons chez Valérie Damido, voir de quel livre elle se chauffe.
Bonjour Valérie Damido.
Bonjour monsieur de la bibliothèque.
Bon, c'est n'importe quoi.
Oui.
Moi, je m'attendais à une maison hyper rangée, avec des étagères, de la couleur taupe partout, des décalcomanies. Et en fait, c'est une sorte, chez vous, on est à Paris... C'est une sorte d'atelier, de loft, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y en a partout.
Bah ouais, la maison est devenue une bibliothèque par la force des choses. J'ai toujours rêvé d'avoir une pièce consacrée aux livres avec, tu sais, comme dans les films anglais, où tu as des murs entiers, couverts, avec des canapés où tu peux te vautrer. Bon, alors j'ai pas la place, c'était ça ou une chambre pour mes enfants. Bon ouais, j'ai pris la chambre pour mes enfants. Mais du coup, il y a des livres partout, et il y en a même qui ne seront jamais défaits si je ne trouve pas la place, puisqu'il y a 70 cartons dans le grenier.
Enfin, il y a des livres, mais il y a aussi des bidons d'essence Esso, un casque de pompier, plein de chapeaux partout, un peu en vrac, des jolis meubles, évidemment. Il y a un plancher qu'il faut refaire.
Oui, il y a eu un dégât des eaux, c'est bien, vous arrivez petit quand il y a le dégât des eaux, c'est cool. Hein. Non, il y a des... Bah ouais, c'est un peu le bordel. Je dois dire que c'est vrai que c'est le bordel.
Mais c'est libre, c'est libre.
T'as vu ce que ça prend comme place, les livres?
Oui, il y a des livres partout, c'est vrai.
Oui, ça,
mais
c'est
y a
vrai.
Quand même. Un meuble bibliothèque, on va peut-être commencer par là.
On a essayé.
Bien rangé.
On a essayé de ranger.
Et alors, c'est quoi? C'est des polars? C'est tout noir?
À 70%, c'est des polars. Mm-hmm. En français, moi, j'aime bien Franck Tilliez parce que je trouve que c'est toujours des scénarios vachement ficelés. Mm-hmm. J'aime bien les premiers de Maxime Chattam. Je trouve que c'était vraiment bien les premiers, là, Maléfice, In Tenebris, L'âme du mal, c'était chamé.
Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous plaît
moins? L'ambiance, l'atmosphère. Je trouvais que c'était vraiment écrit. Comme pour un film, vraiment. Et ça, c'est vraiment bien. Et après, j'adore tout ce qui est polar du Nord. J'appelle ça les polars du Nord.
Vous avez toute la collection Actes Sud Noir,
ouais.
Des Millennium, Stieg Larsson, Camilla Läckberg, La Princesse des Glaces.
Ouais, j'aime bien aussi Nick Menkel, qui est pour moi...
Le maître.
Tu vois, puis derrière, il y a aussi des classiques, il y a d'autres trucs. Il y a Florian Zeller, il y a Serge Joncourt. C'est un peu mélangé, hein. C'est le melting pot.
Alors
vois,
là, on est sur la table de chevet. Il y en a plein, hein.
Il y a du Vernon Subutex parce que j'aime beaucoup Virginie Despentes.
Ouais.
Et j'aime beaucoup Vernon Subutex. Je suis ravie que ce soit Romain Duris qui fasse le film parce que j'aime bien.
Pour l'adaptation au cinéma, ouais.
J'aime bien son style, j'aime bien sa façon de dépeindre les gens, j'aime bien la façon qu'elle a de te coller dans son univers et de te laisser le prendre et de le mettre à ta sauce. J'aime bien ses façons d'écrire.
Le côté punk, un peu comme Millennium en fait, quoi. Vous aimez bien.
Ouais. Et puis il y a un côté aussi où on a le même âge, donc on a vécu les mêmes années trash, je pense. Et il y a toujours ce côté un peu où tu sens qu'elle est nostalgique de cette époque des années 80, un peu trash, un peu avec les mecs sont un peu des losers, mais en même temps c'est des losers auxquels tu t'attaches, typiquement un Vernon Subutex.
Vous l'avez déjà rencontré?
Non, mais j'aimerais bien la rencontrer. Bon, alors, Nietzsche French, bon, ça, c'est de la détente. Hein. Ça, c'est pour...
Le jour de l'innocence perdue.
Alors, tu sais, c'est un couple américain qui écrit ensemble.
Qui s'appelle French. Et ça raconte quoi?
C'est des meurtres d'enfants, des kidnappings. D'accord. Tu vois, c'est toujours très, très dur. Mais...
Wow.
Ça, c'est pas mal aussi.
Le bourreau de Gaudi. Et vous l'avez lu plusieurs fois parce qu'il est abîmé.
Non, je l'ai prêté. Non, ça, j'aime bien aussi Adler Olsen. C'est pas mal.
Chez Albin Michel, celui-ci, c'est Promesse.
Ouais.
Pierre Lemaitre.
Pierre Lemaitre.
Le prix Goncourt. Vous l'aimez
alors,
bien?
Pierre Lemaitre, je l'ai découvert avec un livre qui a plusieurs années maintenant qui s'appelle Alex.
Avant le prix Goncourt.
Mais bien avant, Charles.
Avant sa grande notoriété.
Bien avant sa grande notoriété.
Même s'il a toujours eu quand même un noyau de fans.
Il a eu un noyau de fans. Mais le truc de Pierre Lemaitre, c'est pour moi, hein, la découverte de Pierre Lemaitre, c'est ça, c'est Alex.
Alex.
Qui est pour moi le meilleur polar, sincèrement, hein, que, bah, tu vois, 2011. Donc il y a 6 ans, je l'ai découvert comme ça. Hein. C'est pour moi le meilleur polar de ces 10 dernières années.
Ça raconte quoi?
C'est l'histoire d'une fille, Alex, qui est une fille sublimissime, qui est une meurtrière, mais qui a des... C'est pas pour rien qu'elle est meurtrière. Elle a été un peu...
Il y a une enquête, c'est de son point de vue? C'est un enquêteur?
Il y a une enquête avec un commissaire, qui est un personnage que Pierre Lemaitre aime bien. Et voilà. Après, j'aime bien Granger.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ouais.
Il y a toute la collecte même.
Ouais, je crois qu'il y a toute la collecte.
Il y a d'autres livres partout, là. Il n'y a pas que du polar, quand même.
Ah non, il n'y a pas que du polar.
Les sales blagues de Villemain.
Ah bah, Villemain, quand même, les gars. Wow. Et j'ai ça. Alors ça, on m'a offert ça pour mon anniversaire, il y a 5 ans.
Les Mille et Une Nuits, et en grand format
c'est
illustré.
C'est sublime, c'est magnifique.
Gros livre.
C'est vraiment... Puis les Mille et Une Nuits, j'aime l'histoire, parce que quand tu sais qu'elle va se faire tuer...
Encore une femme rebelle, quoi.
Ah bah oui. Ouais. Bah alors, elle est encore plus que rebelle, elle est maligne. C'est-à-dire qu'elle lui dit, chaque soir, je vais te raconter une histoire. Et comme ça, bah, il est obligé, le matin, il peut pas la tuer, il est obligé d'attendre la suite de l'histoire. Ça va durer 10 ans, quand même, cette histoire, parce qu'elle lui fait des enfants, pendant qu'elle raconte... tu vois, c'est quand même... c'est un très beau cadeau. Mais on m'a offert des très beaux livres aussi, qui sont là-haut, dans la vraie bibliothèque. Tu vas voir, je vais te les montrer, qui sont pas mal. C'est le bordel, hein. Oh là là.
C'est bien.
Après, bon,
il y a des tableaux aussi très jolis.
Le carrelage, bah
il y a
oui,
des os en plastique pour votre chien, j'imagine.
C'est des os en corne de bœuf. Donc là, tu vois, t'as tous les... Ma fille, elle est illustratrice, elle fait des dessins.
Ah, ouais.
Il y a plein de bandes dessinées, il y a plein de classiques aussi.
D'accord.
Alors, mon fils a récupéré tous les classiques.
Alors, on va pas déranger, là, on est dans la chambre de votre fils, quand même.
Non, mais ça va, on va faire vite fait.
Donc là, il y a des livres anciens, ils sont à vous.
C'était, ouais, les livres de ma mère.
Oh, il y a les liaisons dangereuses de Laclos. Il a quel âge, votre fils?
Bah, 23.
Ah oui, ça va. Les fleurs du mal.
Oui.
Le rouge et le noir.
Ma mère, elle a acheté ces éditions, tu sais, c'est relié en cuir.
Ouais, en cuir rouge, comme
voilà,
ça, c'est très joli.
C'est pas mal
pour
de pièces.
Écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu « Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris ». Le début de Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset.
Mais il est jeune quand il écrit ça.
Clac. Bon, je le range. Moi, je ne peux pas abîmer. Hein.
Tu vois, alors j'ai mis les bouquins de photos que j'aime bien.
Helmut Newton. David Lynch.
Voilà, mais tous mes bouquins de photos, il y a quand même Jonvel, tout ça. J'ai tout. Et ben, tu vois, on en a mis quelques-uns là. Après, bon, t'as 2-3 bouquins de déco, on va pas se mentir. Tu vois.
Et la reine?
Eh ben, la reine, parce que quand même.
Elisabeth II, évidemment.
Bah, extraordinaire sa vie, non?
C'est quoi? C'est un livre de photos?
C'est un livre de photos, puis sa vie surtout. Attends.
Oh, très grand format chez ta chaîne, qui font toujours des très très beaux livres.
Ouais. Là, on peut pas y aller. C'est dommage que je vis avec mon papa et il dort dans la bibliothèque, où il y a tout. Tu vois, la bibliothèque est là? Tu l'entreaperçois, là?
Oui.
Voilà. Eh bien, il y a tous mes livres d'enfants. Et il y a tous les classiques encore. Il y a tous mes bouquins d'enfants. Mais les vrais Martine, les vrais Saturnin, les vrais Caroline, tout. Et dans les cartons que j'adorerais récupérer un jour, un endroit où mettre tout ça, j'ai des BD de malades.
Vous aimez la BD aussi?
Je trouve que c'est... Le dessin, c'est quand même... Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien Villemain, mais j'aime bien Coco. Tu vois, j'aime bien Coco, j'aime bien tous les mecs qui ont dessiné dans Charlie. Moi, j'avais une passion pour Reiser, mais vraiment, j'ai tous, d'ailleurs, je pense. J'avais une passion pour Cabu. Je trouve qu'il... Enfin, le dessin, et pas que le dessin politique, mais le dessin en général, je trouve que c'est une vraie façon de montrer quelque chose sans vraiment trop de texte, tu vois. Il y a plein de trucs. Immédiatement. C'est immédiat.
Dernière question rituelle. Est-ce qu'il y a un livre que vous offrez à chaque occasion? Il y a un anniversaire, une soirée, un truc, vous savez que c'est avec ce bouquin magique qu'à chaque fois vous touchez la cible. Est-ce qu'il y a le bouquin que vous offrez à chaque fois?
Bah non, en fait. Parce que moi, je trouve qu'un livre doit ressembler à la personne à laquelle tu l'offres. Donc moi, j'offre souvent des livres. Mais j'essaie toujours de trouver le livre qui va avec la personne chez qui je vais. Tu vois, soit c'est un livre qui m'a touchée Et c'est pour ça que quand on fait nos ateliers de lecture avec mes copines, on s'échange nos bouquins et on essaye de se prêter des livres qui correspondent à nos personnalités.
Ah, vous faites des ateliers de lecture?
Ouais, on aime bien faire des dîners de lecture et on s'échange nos bouquins.
Donc vous buvez du vin et vous discutez du livre que vous avez choisi?
On boit du vin et on discute du livre et on explique pourquoi on l'a choisi. Et généralement, après, quand on fait le dîner d'après, on s'échange nos livres, on se les rend, on en prend d'autres. Et ben, on se dit ce qu'on a aimé ou pas aimé et on fait des commentaires.
Ah, c'est beau.
Tu vois?
Merci beaucoup Valérie de nous avoir reçus.
Merci monsieur le bibliothécaire.
On vous laisse ranger vos 70 cartons de livres.
Ouais, j'aimerais bien.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est livre.
De retour à Europe 1 et je vous propose d'écouter un livre culte maintenant, Gatsby, le magnifique de Scott Fitzgerald. Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. C'est le roman le plus connu de Fitzgerald, publié en 1925. L'histoire nous est racontée par Nick Carraway. Un jeune homme d'à peine 30 ans, il compte tenter sa chance dans la finance à New York. Il s'installe dans une petite, toute petite maison sur Long Island, au milieu des grandes villas de milliardaires. Son voisin fait partie de cette haute société, organise des soirées fastueuses, inondées de champagne, pleines de paillettes et d'outrances. Il s'appelle Jay Gatsby. Il est richissime, on ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il a fait fortune. Ce qu'on sait, c'est qu'il est amoureux. Amoureux de la cousine de Nick, Daisy. Elle est mariée à Tom Buchanan, très riche aussi, mais beaucoup moins classe que Gatsby, bourru, un peu raciste sur les bords. Le couple n'habite pas très loin et Gatsby va se servir de Nick pour approcher Daisy. Une histoire servie par le style incroyable de Fitzgerald. C'est Nick qui raconte, chef-d'œuvre absolu. Mais fiasco pour son éditeur. En 1925, Fitzgerald est pourtant déjà connu, mais le livre ne dépasse pas les 30 000 exemplaires, beaucoup moins que ce qu'il attendait. Il faudra attendre les années 50-60 pour que le livre connaisse le succès. Jusqu'à aujourd'hui, Gatsby reste un mythe. Le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio est la quatrième adaptation du livre. Un roman qui finit mal, c'est presque une tragédie, mais qui dresse un formidable réquisitoire contre la vulgarité de l'argent. Un tableau des années 20, des années folles qui ressemblent parfois furieusement à notre époque. On écoute la première page lue par le comédien Philippe Dussault.
Quand j'étais plus jeune et plus vulnérable, mon père un jour m'a donné un conseil que je n'ai pas cessé de retourner dans ma tête. Chaque fois que tu seras tenté de critiquer quelqu'un, m'a-t-il dit, songe d'abord que tout le monde n'a pas eu en ce bas monde les mêmes avantages que toi. Il n'en a pas dit plus. Mais comme nous avions une capacité peu ordinaire à communiquer dans la plus extrême réserve, j'ai compris qu'il exprimait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. De là mon inclination à ne pas me hâter de juger, habitude qui a fait de moi le confident de bien des personnalités surprenantes, et aussi la victime de plus d'un inguérissable raseur. Un esprit déréglé est prompt à déceler ce trait de caractère chez l'individu normal, et à s'y attacher. C'est ainsi qu'à l'université, j'ai été injustement accusé de jouer les éminences grises, parce que de jeunes sphinx farouches m'avaient confié leurs peines secrètes. La plupart de ces confidences n'avaient pas été sollicitées. Souvent, je faisais semblant de dormir ou d'être absorbé, ou je feignais la légèreté hostile dès que je percevais, à quelques signes indiscutables, qu'un aveu intime se profilait à l'horizon. Car les confessions des jeunes gens, ou du moins les termes dans lesquels ils les formulent, révèlent habituellement du plagiat et sont gâtés par d'évidentes censures.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est livre.
Et la voix est livre continue et les visites de bibliothèque. Nous partons chez François Morel.
Bonjour François Morel.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. On est chez vous, dans votre maison, on est en région parisienne.
Oui, on est dans le Val d'Oise.
Val d'Oise.
Pas loin maison. De la forêt de Montmorency.
On est dans votre salon, grand salon, avec des beaux fauteuils.
Asseyez-vous.
Ouais, merci, merci beaucoup. Vous lisez ici?
En fait, je lis plutôt là-haut. Bon, en fait, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de lire.
Ah. Mais, vous lisiez quoi?
Je lisais « Peuple souverain ». De Pascal Horry.
Il y a de la BD, hein. Je vois du Riyad Satouf, l'Arabe du futur.
Ouais.
Tout à l'heure, j'ai vu les cahiers d'Esther au-dessus de votre piano, comme une partition.
Ouais, c'est parce que je l'ai reçu hier et que je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu. Mais ça me fait extrêmement plaisir. Là, je l'ai reçu, ce livre-là. Mais y a, en fait, je vous rassure, il y a plein de bouquins que j'achète, moi.
Il y a des jolis dessins un peu partout encadrés aussi.
Ouais.
Vous aimez le dessin?
J'adore. J'adore. Et j'ai plein de bouquins, d'ailleurs, de Chaval ou de je crois que j'ai tous les 100 P. Ouais. J'adore cet humour-là.
Oui, 100 P, ça vous va bien, effectivement.
J'adore, ouais. J'adore. Enfin, je ne sais pas si ça me va bien.
C'est
enfin,
votre
en
école,
tout cas, moi, ça me va bien, oui. Ça me va bien, mais ça m'aide à... oui, ça m'aide à vivre, ces dessins-là.
Là, vous avez une œuvre de Ernest, Pignon Ernest.
Oui, mais j'ai fait une fois, c'est poubelle. Enfin, c'est-à-dire, je suis allé lui rendre visite et j'ai dit, ah, c'est joli ça. Il m'a dit, oh non, c'est nul, c'est un essai, je vais foutre ça à la poubelle. Et je lui ai dit, avant de le foutre à la poubelle, tu veux pas me le donner, que je l'encadre. Et donc, il me l'a signé et je l'ai encadré. Et c'est beau, c'est important.
Ouais, c'est un beau déchet. Hein.
Ouais, c'est des déchets comme ça, moi j'aimerais mieux en faire.
Un portrait, un visage.
Le visage de Verlaine.
Ouais. Là, vous avez une belle étagère avec toute la collection blanche. Enfin, toute.
Pas toute, non, mais il y en a d'autres.
Loin de là, mais beaucoup d'exemplaires de la collection blanche de chez Gallimard. Vous aimez cette collection en particulier ou vous aimez bien que ce soit une étagère jaune comme ça?
Oui, c'est ça, c'est une étagère jaune. Il doit y avoir pas mal de...
Il y a Duras, il y a Daniel Pénac.
Il y a Pénac.
Vous aimez ça?
Ouais.
Ça vous correspond, je trouve.
Ah bon? Ouais, bah, tant mieux. Ouais, moi j'adore. Je lis tous les bouquins du Pénac, ouais. Et le dernier m'a beaucoup plu aussi. Il y a peut-être des Modiano aussi, non?
Il y a Le Clésio... Modiano.
Ouais, ça j'adore ça aussi.
La Petite Bijou, je ne l'ai pas lu celui-ci.
Vous voulez que je vous le prête?
Oh, c'est gentil. Vous prêtez vos livres?
Oh ouais.
Est-ce que vous marquez au crayon de bois sur la première page François Morel?
Là, regardez si c'est marqué. Non, en général, non. Sauf quand je tiens vraiment un livre, ceux-là, ils sont...
Pourquoi ils ne sont pas là, les autres Modiano, alors? Vous les avez peut-être prêtés à tout le monde.
Ouais. Ce que j'aime bien, je crois, dans le fond, dans les livres, c'est quand ils m'échappent et quand je ne comprends pas pourquoi je les aime. Mmh. J'aime bien être... déplacé comme ça. Je trouve qu'il y a ça chez Modiano, comme il y a ça chez Dubillard au théâtre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on aime ça, on ne sait pas pourquoi on est pris dans un style. Et Modiano, j'aime bien toujours le moment, à chaque fois je me concentre en les lisant, en me disant il y a un moment où je vais être perdu, et ça sera à quel moment? Et puis, parce qu'au début, il raconte une histoire, c'est assez précis, etc. C'est même hyper précis avec les lieux extrêmement précis, géographiques, etc., les adresses et tout ça. Et on se dit, on comprend bien. Et puis, à un moment donné, paf, on ne sait plus si on est dans le passé ou dans le présent. Et on ne sait pas à quel moment on bascule dans une espèce de brouillard qui est son cerveau et dans lequel moi j'adore me perdre.
On est juste à côté de votre table basse. C'est compliqué pour prendre l'apéro parce qu'il y a des livres partout. Donc il y a quand même un exemplaire de Comprendre Star Wars quand on n'a pas toujours compris qui est le père de Luke Skywalker.
Vous le connaissez?
Ce livre-là, non?
Ouais.
Mais vous êtes fan de Star Wars?
Ben
au
non,
contraire, vous essayez
donc,
de
je
vous
me permets de vous l'offrir.
Ah, bah, c'est gentil.
Voilà.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous êtes fan de Star Wars?
Oui.
Ah, bah alors.
C'est pour ça que j'en ai peut-être pas tellement besoin, parce que je sais qui est le père de Luke Skywalker.
Ouais, mais quand même, c'est bien.
Je peux vous le dire, c'est Dark Vador.
C'est pas vrai. Vous m'en apprenez de belles.
Il y a un étage, on va peut-être monter, voir s'il y a des livres.
Très bien.
Là, il y a un meuble bas avec beaucoup de beaux livres. Il faut s'allonger devant pour le consulter comme vous venez de faire finalement.
Bah, je crois, oui. Ah, ben là, voilà. Elena Ferrante est toujours là.
Là, on est dans votre chambre.
Ouais, ni plus ni moins.
Oh, L'art de perdre sur votre table de chevet d'Alice Zénitaire, dont on parle beaucoup pour le prix Goncourt notamment.
Ah bon, d'accord.
Ouais, ça vous plaît?
Oui, beaucoup.
Vous en êtes à la page 133.
Exactement. Donc, ce que j'ai lu jusque-là, ça m'a plu. Mais... Et en dessous, il y a.
En dessous, ouais. Des proches, chroniques de la haine ordinaire.
Ben, je viens d'en relire récemment. C'est une mine. Enfin, c'est une mine, c'est une inspiration. Ah ben, lui, j'avais osé l'aborder une fois, je l'avais vu à la FNAC. Mais c'était il y a très très longtemps, je crois que c'était genre en 84. Je jouais au Caveau de la République, le lieu des chansonniers à l'époque. Et donc, je l'avais abordé. Il était en train de lire un bouquin à la FNAC sur les champignons. Et donc, j'étais allé vers lui et je lui disais, Monsieur Desproges, ça me ferait tellement plaisir si vous vouliez venir me voir. Et il m'a dit, vous jouez où? Je lui ai dit, au Caveau de la République. Et il m'a dit, je viendrai sûrement pas. Voilà ma rencontre avec Pierre Desproges.
La belle histoire du crapaud boudin. Et
d'ailleurs, j'ai lu des trucs, parce qu'il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est vachement beau d'ailleurs, que vous connaissez.
Ah bah oui,
c'est la Des proches, fait par Perrine, Des proches. Et il raconte très, très là-dedans livre. Notamment sa détestation des chansonniers et il explique pourquoi il n'aime pas les chansonniers. D'ailleurs, il ne faudrait pas généraliser parce que le plaisir de lire des proches, c'est qu'ils ne généralisent jamais rien. Mmh. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est ça qui peut m'agacer chez Jacques Brel, c'est qu'il généralise parfois. Il dit « les femmes nous apprennent la prudence ». Bon, non, pour les femmes, non. Il y a peut-être une femme qui t'a appris la prudence et elle a eu tort. Mais il y a plein de femmes qui nous apprennent la folie, l'imagination, le bonheur, l'amour, enfin bon, tout ça. Et donc... Et ils ne généralisent pas et des proches ne généralisent jamais. C'est ça que j'aime.
Proche, je dirais cette femme. Quoi.
Oui, cette femme. D'ailleurs, c'est exactement. Il est très proche de Brassens là-dessus. Dans le dialogue entre Ferré, Brassens et Brel, c'est, moi j'adore à chaque fois ce que dit Brassens. Il dit il y a des femmes qui sont merveilleuses, il y a des connes, on ne peut pas généraliser. Voilà, c'est bien. Des femmes sont plus fortes que les hommes. C'est une citation.
Oh, bah, il y a une bibliothèque de Pléiade. Elle est un peu cachée, il faut dire.
Ah oui. Mais c'est pas là où je lis plus les bouquins, en fait. Et j'en ai même ailleurs. Oui. Pareil, je trouve ça un peu lourd à lire.
Voilà.
Bon, mais...
Puis c'est fragile.
Mais c'est pas mal d'avoir, par exemple, tout Prévert, tout Boris Vian.
Tchekhov.
Ouais.
Zola. Bon, ça.
Je pourrais ranger un peu. Mettre le Prévert à côté de Prévert.
Mais c'était peut-être classé par ordre alphabétique, non?
Ah oui, c'était rangé là, mais alors, alors je me suis trompé, le Prévert, il doit être là. Oh, le bordel, pardon. Et Aragon, il pourrait être là, alors?
Ah ben, en premier.
Bah oui. Bon. Aragon, Aimé. Marcel Aimé.
Alors, A-R-A-Y.
A-Y.
C'est bon.
Ça, c'est bon. Non, le Y avant, non?
Non, après.
Ah oui, pardon. Voilà.
Stendhal, vous pouvez déjà le mettre tout
un peu plus loin. Ouais. Vian, je peux le mettre là. Et en même temps, on aurait envie de mettre Vian à côté de Prévert, vu qu'ils étaient voisins.
Ah oui.
Queneau.
Le journal de Jules Renard.
Oui. Merveille.
Ah ben, c'est splendide. Celui-là, vous l'avez lu, hein. Il est
arrivé.
Ouais. Hein.
Ah ouais, ouais. En fait, c'est avec les Simenons ce qui me réenclenche la machine à lire. Parfois, je suis en tournée, tout ça, puis je n'arrive pas à lire, donc je lis le journal et je fais les mots croisés. Et de temps en temps, je me dis, il faut que je relise un livre. Et alors souvent, pour réenclencher ma machine et mon désir de lire, soit je me plonge dans le journal de Jules Renard, là, il suffit de lire un paragraphe et à chaque fois, on est ébloui par le style et la méchanceté. Et puis parfois aussi, c'est en lisant un Simenon. Parce que tout de suite, on est plongé ailleurs et dans un univers extrêmement prégnant. Et ça, tiens, ah ouais, ça, c'est marrant aussi. Il y a Jean Carmé qui a écrit un texte qui s'appelle Banalité et qui, je trouve, est une merveille.
Banalité,
page 129. J'ai une vie très intéressante. Il m'arrive toujours des choses. Cette nuit, par exemple, j'entends un bruit. Je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit. Je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. C'est intéressant. Plus fort encore, tous les ans, au mois de juin, j'ai le rhume des foins. Cette année, je l'ai maintenant. Ah. Ça change. Il y en a qui, tous les matins, se lèvent à la même heure. Moi, un jour, c'est 8h moins le quart. Le lendemain, c'est 8h moins 10. Il n'y a pas de règle. Vendredi, au lieu d'un hareng, je me ferai un merlan. Jamais la même chose. J'ai fait la connaissance d'une femme, je lui ai dit « Venez passer la soirée chez moi ». Elle me dit « Non ». Encore un souvenir.
C'est beau, non?
Ah, c'est super. Il y a d'autres livres dans vos toilettes, vous m'avez dit.
Oui. Ah bon? Il y a quelques livres, hein. Mais non, mais ça, c'est parfait. Moi, j'aime bien, il y a des bouquins pour les toilettes.
Les chroniques de Françoise Sagan, c'est pour les toilettes, vous pensez-vous?
Pas les chroniques de Françoise Sagan forcément, mais les chroniques, c'est pas mal. Ouais. Parce que
court.
Ça se lit assez rapidement.
Il y a la vie de Gérard Jugnot, on peut le dire.
Oui, bah, c'est parce que j'ai...
La biographie.
Ouais, bah, mais c'est pas, ça veut pas dire que ce sont
des... Non, non, il n'y a pas de mépris, hein, voilà.
Non, pas du tout. C'est sans doute qu'ils ont été lus là. Et puis il y a même La Gare des Michards. Ah. Parce que ça, pour les toilettes, c'est pas mal. On peut lire une page de la littérature. André Gide, Giraudoux, Paul Géraldi. Et puis...
Breton. Le livre. Voilà. Le chapitre sur le surréalisme.
Voilà.
Bon, ben merci François Morel, on vous laisse avec tous vos livres un peu partout dans cette belle maison.
Ben merci d'être passé.
Merci beaucoup François Morel.
Merci.
Europe 1.
Merci encore à François Morel pour cette visite poétique. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.